Merci Anne-Emmanuel, merci à tous d'être là. Si l'on m'a demandé donc de traiter de ce thème, c'est sans doute parce que j'ai pas la réputation d'être un administrativiste classique. J'ai plutôt applaudi que critiqué les récentes évolutions législatives relatives à la boucle administrative, au pouvoir du Conseil d'État de maintenir les effets de ces arrêts d'annulation, ou encore à la consécration jurisprudentielle du principe de sécurité juridique, principe concurrent et non négligeable du principe de la légalité, qui était jusqu'alors, jusqu'il y a peu, absolu. Et donc, le thème de ce jour, le respect des formes est-il un obstacle à l'efficacité de l'action publique, évoque en moi la question sur laquelle je m'interrogeais déjà, mais sans avoir l'occasion de le faire, je dirais sens et non-sens des formes dans le droit administratif. C'est comme ça que je le vois. C'est une question difficile à résoudre. Je ne prétends pas, par le menu, apporter des réponses. Je ne fais que donner, je crois, quelques outils de réflexion sur le sens et le non-sens de certaines formes dans le droit administratif. Et pour commencer, je voudrais prendre deux exemples. Tout d'abord, l'affaire Tassin. L'affaire Tassin, c'est l'affaire de magistrate, Madame Geneviève Tassin, qui est magistrate d'instance à Bruxelles et qui postule comme chef de corps. La place est vacante, donc présidente du tribunal ici à Bruxelles. Et elle postule, elle adresse son dossier avec les éléments requis, du moins elle le pense. Elle joint un CV, une lettre de motivation, etc. Et puis elle s'entend dire par les services du SPF Justice que sa candidature n'est pas recevable. Sa candidature n'est pas recevable parce que vous n'avez pas joint, elle n'a pas joint à son dossier une copie de son diplôme de licencié en droit. Elle est pourtant, elle était avocate pendant 15 ans, magistrate depuis plus de 10 ans, et elle a omis de mettre son diplôme de licencié en droit. Je cite le fonctionnaire, « Le diplôme est une exigence de forme, entre guillemets, pour la recevabilité de la candidature. Il s'agit d'une preuve matérielle qui doit être fournie. Votre candidature ne peut être prise en considération. » Madame Tassin dit « Je vais vous apporter mon diplôme, si vous le voulez. Je l'avais perdu de vue, je vais vous le déposer. » Elle le dépose, mais hors délai. Hors délai. Et elle dit gentiment « J'ai eu vos services en ligne. Il m'a été dit que ma candidature n'avait pas encore été examinée puisque le responsable du dossier est en congé. Et donc, je suppose qu'on peut donc ajouter mon diplôme et qu'il se trouve dans le dossier suffisamment d'informations nécessaires puisque vous pouvez constater que j'ai eu mon diplôme de droit, que j'ai été magistrat, etc. » Et vous le savez, puisque j'ai été nommé magistrat, que j'ai donc un diplôme de licencié en droit. Réponse du SPF. Ta candidature a été rejetée étant donné que tu n'avais pas joint à celle-ci une copie de ton diplôme de licencié en droit. C'est écrit comme ça. L'accent, je l'ajoute, mais c'est écrit comme ça. Tu as réagi à cette décision et j'attire ton attention sur le fait que blablabla. C'est différent pour ce qui est du diplôme de licencié en droit. Nous n'avons estimé que le diplôme est une exigence de forme pour la recevabilité de la candidature. Il s'agit d'une preuve matérielle qui doit être fournie bien avant. Et donc, on rejette sa candidature. Non-respect des formes. Bien. Deuxième exemple, l'affaire Bull. Bull, la société informatique bien connue. Bull qui postule donc à un marché public du ministère de l'Intérieur, un marché public assez sensible, puisqu'il s'agit de conserver des données, et de, un backup de données importantes, notamment pour le... Donc c'est le Disaster Recovery Product. S'il y a un désastre et que les biens, les produits sont perdus, il faut, dans le Corporate Data Center, le Corporate Defense Network. Donc un système de backup des informations pour le ministère de l'Intérieur et de la Défense. Truc sensible. Et Bull, dans le marché qu'il exécutait, ce marché renouvelé n'est pas choisi. Ils vont en recours en suspension devant le Conseil d'État, fort bien, comme dans tout marché public. Et le premier moyen qu'ils invoquent, c'est la violation de l'emploi des langues. Ah, et pourquoi ? Parce que 3 annexes des 18 annexes du cahier des charges étaient en anglais. Étaient en anglais. Et donc, vient dire, écoutez, il y a là une illégalité d'ordre public. À quoi on répond en disant, ben, écoutez, votre site et Internet est exclusivement rédigé en anglais. Vous connaissez donc l'anglais parfaitement. Secondo, vous êtes vous-même celui qui s'occupe pour l'instant du marché. Et vous utilisez quotidiennement l'anglais dans l'exécution du contrat. Et ça ne vous a jamais empêché d'accepter le précédent marché qui était attribué en anglais. Au demeurant, l'anglais est la langue classiquement utilisée en tant que telle. Mais le Conseil d'État va être d'un autre avis. Le Conseil d'État va estimer que, au regard de l'article 40, alinéa 2 des lois sur l'emploi des langues, c'est un document qui doit être considéré comme une communication faite au public, le cahier des charges. Il doit être rédigé en néerlandais et en français, et que des documents ont été rédigés, certains, seulement en anglais. Et la règle est d'ordre public. Elle ne doit même pas se prévaloir d'un intérêt, la société Bull, pour le soulever, et peut-être soulever d'office. Et le magistrat ajoute: il n'est pas raisonnablement permis de faire preuve de tolérance à l'égard du manquement dénoncé. Il n'est pas raisonnablement permis de faire preuve de tolérance à l'égard du manquement dénoncé, au motif que ça ne concernerait que 3 des 18 annexes. Il ne se justifie pas davantage que l'anglais soit la langue véhiculaire. On n'aperçoit pas comment un tel usage primerait la loi, particulièrement lorsque celle-ci revêt un caractère d'ordre public, au point d'en justifier la violation. Et enfin, on dit, il est possible de décrire les prescriptions techniques en néerlandais et en français, le cas échéant, en faisant usage de la terminologie anglaise usuelle pour les termes techniques consacrés et les abréviations anglaises concernées. Et voilà Bull qui obtient donc la suspension de ce marché pour ce motif, pour ce simple motif. Mais mon point n'est pas tellement là. Mon point, c'est que dans conséquences pratiques, c'est que les autorités sont tétanisées. Tétanisées par ce genre d'arrêt. Et dans un marché de plus de 500 millions d'euros relatif au ETCS, European Train Control System, donc le système de freinage automatique des trains qui franchissent par une advertance ou autre des feux rouges, on a un pouvoir public infrabelle qui s'est dit, vu l'arrêt Bull, je vais faire traduire en deux langues les 2000 pages du cahier spécial des charges et des questions techniques qui sont toutes en anglais. 2000 pages de traduction en néerlandais, 2000 pages de traduction en français. Et donc, concrètement, pour l'autorité, 3 mois de retard et 400 000 euros de frais de traduction, tout en sachant que ces documents ne seront lus par personne, parce que les équipes des gros consortiums internationaux qui participent à ce marché travaillent toutes en anglais et utilisent donc forcément les documents tels qu'ils sont là. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Et donc voilà deux exemples pour commencer de formalisme qui cause du tort tant au justiciable, Madame Tassin, dans mon exemple, que à l'autorité qui se prive peut-être d'une bonne candidate, et certainement pour l'autorité qui traduit inutilement des cahiers des charges pour au nom du respect d'un formalisme. Voilà donc pour vous montrer l'actualité, toute simple, du principe du formalisme, de ses limites, tout en disant qu'il est tout à fait également ancien. En 1952, en France, M. Ardan, inspecteur des finances, relevait que, je cite, « le formalisme de l'administration est ce que le public considère comme le trait le plus caractéristique et le plus irritant de l'administration. » Le plus caractéristique et le plus irritant. Et quelle place donc pour le formalisme dans l'action publique aujourd'hui du XXIe siècle. Poser cette question oblige tout d'abord à se demander d'où vient le formalisme, quelle est sa raison d'être, en quoi il est peut-être à ne pas déconsidérer, et on verra que je dis tiens, dans une certaine mesure. Et ensuite, on va traiter, forcément classiquement, sur la conception actuelle de l'action publique, tournée vers l'efficacité, ce qui peut susciter nombre d'interprétations et de difficultés. Et puis je vais essayer de joindre les deux termes en indiquant qu'une des manières peut-être de résoudre les tensions entre formalisme et efficacité, cette manière existe peut-être déjà dans notre arsenal législatif, mais simplement qu'il appelle une nouvelle interprétation. Et je pense qu'on peut alors mieux comprendre aujourd'hui les remèdes mis en place par le législateur en cas de vice purement formel. Je terminerai avec ça aussi. Voilà des réflexions prospectives, certainement trop peu abouties, mais qui peuvent ouvrir la discussion, et notamment grâce à ta réponse ou ta discussion qui est prévue, même si je reconnais que tu dois un peu improviser, on n'a pas eu l'occasion de se concerter. Le formalisme. Le formalisme, je vous donnerai trois définitions. Une première définition tirée des dictionnaires. La première, elle est assez neutre. Le formalisme, c'est une exigence de forme, poussée éventuellement au plus haut degré, dit le dictionnaire, et on parle alors d'un formalisme substantiel, qui consiste à subordonner la validité d'un acte à l'accomplissement de formalités déterminées. Donc, subordonner un acte, son accomplissement à la validité de formalités déterminées, et on cite requise à peine de nullité absolue. Je mets ça entre guillemets parce que, entre parenthèses, c'est dans la définition, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. Parfois, ça peut être à peine nullité absolue. Première définition du vocabulaire cornu. Deuxième définition du Larousse. Le formalisme, c'est le respect scrupuleux des formes, des formalités. Respect scrupuleux et exemple, le formalisme administratif de des dictionnaires. On voit qu'on est déjà dans quelque chose de plus exigeant et un peu plus tatillon. Puis, troisième définition, toujours du même dictionnaire. Le formalisme, c'est l'attachement excessif aux formes. Une tendance, poursuit le dictionnaire, à privilégier la forme et les qualités formelles au détriment du contenu et de la réalité. Au détriment du contenu et de la réalité. Donc on a une définition d'une exigence, une exigence qui peut être scrupuleuse et une exigence qui peut être aussi excessive. Et tout est là-dedans, dans la définition. Quelle est la ratio de cette exigence ? Même si j'ai lu, non sans sourire, dans le traité de Maurice-André Flamme de droit administratif, que, en principe, le droit administratif n'est pas formaliste, il écrit, en principe, il n'est pas formaliste, il admet cependant que le formalisme obéit à une double justification. Un souci de bonne administration, tout d'abord, et ensuite un souci de garantie des administrés, plus fondamentalement. Donc le souci des formes sert aussi l'administration. C'est un moyen de simplifier l'administration. C'est un moyen d'encadrer les fonctionnaires. En s'en tenant à l'observation quelque sorte littérale d'un règlement, on limite l'interprétation personnelle. Le formalisme est donc une technique, un moyen. Ce n'est pas un objectif en soi, le formalisme. Ce n'est même pas une valeur, le formalisme. Mais cette technique sert d'autres objectifs. Cette technique sert des intérêts. Des intérêts que l'on estime devoir protéger, elle sert des valeurs. Et je peux prendre plein d'exemples très concrets. Le respect des délais en marché public tend à assurer l'égalité des candidats. Bien entendu. L'avis de la section de législation du Conseil d'État, qui est obligatoire, dans certaines circonstances on les connaît, tend à assurer la qualité de la réglementation. Et ça, l'égalité. Le visa de la Cour des comptes tend à assurer le respect d'obligations budgétaires. L'enquête publique en urbanisme et en environnement assure la prise en compte de l'intérêt des riverains à propos d'un projet. Le respect de l'emploi des langues vise à, et je cite un arrêt, des facilités pour l'administrer, la protection de chaque langue nationale comme une valeur en soi et assurer la place égale de chaque langue. Voilà donc des objectifs, des valeurs qui justifient les formes. Et donc, le formalisme protège plus fondamentalement encore contre l'arbitraire. L'arbitraire, il protège le faible contre le fort également. J'en suis bien conscient. Von Hiering disait « La forme est la sœur jumelle de la liberté. » La forme est la sœur jumelle de la liberté. Et donc, effectivement, pour un citoyen, souvent placé dans une relation inégale face à l'autorité, le respect de formes rigoureuses, précise, publique, est une garantie contre la partialité, contre des caprices de l'autorité, de ses représentants, ou même pire, contre des manœuvres frauduleuses. Et je relisais un très bon article de Cyr Cambier, en 1953, dans le JT, le Conseil d'État et le contrôle de l'observation des formalités légales, déjà. Il citait la doctrine française en disant: l'acte administratif est la manifestation d'un pouvoir de commandement qui exprime unilatéralement une volonté avec une force exécutoire. Ça, tout le monde le sait. Les formes authentifient cette volonté. Elles n'ont pas la signification de rite désuet, mais servent de contrepoids, de frein à l'action redoutable, redoutable, par les privilèges qui s'y attachent de la puissance publique. Et Aurieux, continue Cyr Cambier, Aurieux a pu judicieusement relever que les formalités des procédures constituent, avec la détermination précise des compétences, la principale condition de l'ordre et de la modération dans l'exercice du pouvoir administratif. Donc c'est un outil de modération du pouvoir. Les formes sont en définitive, dit-il, garantes de l'observation par les agents de l'autorité des limites de leurs compétences. Bien. On est assez d'accord avec tout ça, et donc le formalisme a sa justification, je n'en disconviens pas. On a pu dire, dans une vision un peu passéiste, celle de M. Ardant dont je parlais tout d'abord, qu'on appelait ça le formalisme naturel. Le formalisme nécessaire, conforme à la mission de l'administration, celui qu'on ne peut pas supprimer. Les formalités sont donc des instruments de protection et de sécurité juridique. Bon. Ceci étant, vous voyez bien que si derrière la forme il y a une valeur, il y a des intérêts à ne pas perdre de vue, il faut éviter de tomber dans la chicane, de tomber dans le formalisme vain. Car c'est bien le risque du formalisme, c'est de créer une complexité abusive qui n'est pas exempte de danger. Et donc c'est de manière tout aussi imagée que M. Ardant a pu dire, à côté du formalisme naturel, il y a le formalisme artificiel. Le formalisme artificiel qui consiste, je cite, à oublier le point de départ du formalisme, à oublier sa justification, à en oublier l'utilité, à prendre pour une fin en soi ce qui ne doit être qu'un moyen. Prendre pour une fin en soi ce qui ne doit être qu'un moyen. Donc c'est ça, l'excès de formalisme. Et quand on s'interroge sur comment se fait-il qu'on peut dériver vers ça, comment peut-on y tomber, on n'a pas vraiment d'explication. On peut par contre détecter le formalisme. On peut le détecter dans une application mécanique et déresponsabilisante des règles par l'administration. Et je trouve que l'affaire Tassin est un très bel exemple d'application mécanique et déresponsabilisée. L'administration a le diplôme depuis toujours puisqu'elle a nommé la personne magistrat. Quand elle demande à devenir présidente, on lui dit « Ah, il vous manque le document que certes j'ai dans ma main gauche, mais que vous n'avez pas mis dans ma main droite, et donc le formalisme veut que je rejette. » Ça, c'est pour moi, on oublie de réfléchir à la règle. Et c'est ça, ce que les auteurs qui ont déjà dénoncé ce formalisme disent, pourquoi on peut détecter ce formalisme, et sa cause, tenez-vous bien, c'est une absence de réflexion, je cite, une inertie de l'esprit. Le formalisme dispense de réfléchir trop, et c'est tant mieux. Mais l'excès de formalisme arrive quand on ne réfléchit plus du tout. Plus du tout. C'est donc par paresse de l'esprit que l'on conserve des formalités qui ne sont plus adaptées à leur objet, des formalités qui pourraient être supprimées ou qui pourraient être remplacées par d'autres plus simples. Et le paradoxe, c'est que ce formalisme artificiel, qui se fait au détriment du citoyen, se fait aussi au détriment de l'administration elle-même. Le formalisme artificiel est décrit comme quelque chose de multiples façons, l'administration sécrète du formalisme, comme certains animaux sécrètent une carapace qui les protège, mais qui peut aussi les immobiliser. Et c'est là qu'on arrive à l'autre terme de la question. Si l'administration est immobile, elle n'est pas efficace. Le formalisme est donc une entrave à l'efficacité de l'action publique. Oui, sans doute, la question est un peu mal posée. Le formalisme, en tant que tel, entrave en soi, nuit à l'efficacité. Bien entendu, il ralentit le rythme de prise de décision. Il coûte parfois très cher. L'affaire Infrabel ECTS est un superbe exemple. 400 000 euros de frais de traduction qui ne servent en fait personne, si ce n'est un respect purement formel de la loi sur l'emploi des langues. Il paralyse des projets importants souhaités par l'autorité. On le voit régulièrement en matière d'urbanisme et d'environnement. Prenez l'affaire Néo, prenez l'affaire YouPlace, etc. On peut montrer des questions. Mais la question est plutôt mal posée, je pense. Je crois qu'il faut se demander, plutôt que de se demander si le formalisme est un obstacle, il faut se demander quel lien entre les fonctions du formalisme et ses sanctions. Ça, c'est le lien. Autrement dit, quel point d'équilibre entre le formalisme et l'efficacité? Et donc, avant de tenter de donner une réponse à cette délicate question, quelques mots sur l'efficacité. Je me suis replongé dans ce que j'avais osé écrire, je ne sais pas comment, en 2009, sur l'efficacité. Et notamment, sur l'efficacité, est-ce que c'est un concept juridique ou qui pourrait recevoir un concept juridique et si c'était souhaitable de l'avoir en tant que tel. Et j'indiquais que je crois aujourd'hui, malheureusement, l'amélioration de la performance publique est un incontournable. qu'on juge l'administration sur son efficacité. Mais la traduction de ce souhait, de cette invitation, est encore dite, traduction juridique, est encore difficile à faire. Mais sous l'influence des économistes, sous l'influence des spécialistes de la gestion publique, on constate dans des textes nationaux et internationaux que le mot d'efficacité apparaît comme étant quelque chose de type juridique. Et alors on distingue différents types d'efficacité, avec en plus un grave problème de vocabulaire, aussi bien en langue française qu'en langue anglaise. Et donc on ne trouve pas les mots et on doit toujours d'abord faire des préalables sur ce qu'on entend par efficacité, efficiency, effectiveness, effectivité. C'est très compliqué et chacun a sa définition. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je crois qu'on va se perdre et ça ne sert à rien. Je dirais simplement deux termes. On y a d'une part l'efficiency en anglais, obtenir des résultats avec les moyens les moins coûteux. C'est une question sur les inputs qui sont utilisés. Efficiency. Et l'effectiveness, le fait d'atteindre les résultats attendus, l'output qui est produit. L'output qui est produit. Bon. Ce que je constate, c'est que ce que j'avais écrit en 2009 a suscité, pas lié à ça, mais depuis lors, il y a eu d'autres colloques sur le sujet. En France, une équipe du CNRS publie en 2012 un ouvrage, L'efficacité de la norme juridique, nouveau vecteur de légitimité, point d'interrogation. C'est pas que la norme soit légale, c'est pas ça sa légitimité. Que la norme soit éthique, oui, ça aussi, c'est important qu'elle représente la justice, mais aussi qu'elle soit efficace, nouveau vecteur de légitimité. Et alors, l'Institut de sciences administratives indique aussi un peu plus tard, dans une analyse des théories du New Management, qui ont eu leur moment de gloire un peu, et on se demande, est-ce qu'on pourrait dire bye-bye au New Management, aujourd'hui. Ils font le bilan, récemment, en 2013. Et ils disent, oui, sans doute qu'on a abandonné un peu l'idée de réduction de l'État au minimum, qu'on a abandonné l'idée de privatisation idéologique, dans une certaine mesure, mais les outils du New Management public sont quand même restés, et surtout, ils disent, dans la conclusion de tout cet ouvrage, on constate aujourd'hui que l'accent est mis sur une évolution d'une efficiency augmentée vers une effectiveness améliorée. Exactement les deux thèmes dont on parlait. Increased efficiency, donc purement les inputs, non, c'est pas ça qu'on veut, vers une improved effectiveness, une amélioration des outputs. Et plus importante. Donc, l'efficacité, qui au départ est suspecte pour les juristes, lui est de moins en moins étrangère. Elle est reçue dans la sphère administrative, en ce compris dans le droit. Elle n'a pas encore une traduction au traité, mais elle arrive de plus en plus. Donc maintenant, comment va-t-on articuler les deux éléments de tension, le formalisme naturel et artificiel, et l'efficacité, le moindre coût, efficiency, et l'atteinte des résultats attendus, l'effectiveness. Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue en la matière et qu'à mon estime, la théorie des formes, le classement des formes en fonction de l'incidence qu'a leur violation sur la légalité d'un acte, offre en fait déjà une réponse. Et, je répète, ce n'est pas tellement l'arbitrage entre formalisme et efficacité qui compte, c'est plutôt la modulation des sanctions. La modulation des sanctions lorsque une règle n'a pas été respectée. Et, comme le dit de nouveau Sircambier, le plus souvent, comme il dit, ce qui est substantiel, ce n'est pas tellement la formalité, mais bien l'illégalité elle-même qui est commise. L'illégalité est substantielle. Et c'est celle-là qu'on doit alors sanctionner adéquatement. L'intensité de la sanction en cas de violation d'une règle va déterminer l'importance de la règle. C'est ça qui joue. Et donc, classiquement, on connaît tous l'article 14 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, on a trois types de formes à respecter quand on invoque un vice de forme. Les formalités prescrites à peine de nullité, les formalités substantielles, et les formalités qui sont ni prescrites à peine de nullité, ni substantielles, et dont on admet que la violation n'entraîne pas l'annulation. J'ai repris le manuel de Michel Leroy, qu'on appelle secondaire ou accessoire, qu'importe. Mais rappelons de quoi il s'agit. Les formalités prescrites à peine de nullité, elles sont prévues expressément dans la loi. À peine de nullité. Dans l'affaire Tassin, il était mis qu'il fallait produire à peine de déchéance. C'est vrai. Il faut être correct dans ce qu'on dit. À peine de déchéance, il fallait produire toutes les pièces justificatives relatives à ses études. Et Mme Tassin n'avait pas mis son diplôme de licencié en droit. À peine de déchéance. Mais pourtant, on sait bien qu'elle est licenciée en droit. Elle a été avocate et magistrat. Et les magistrats. Soit. Elles ne sont pas fréquentes. C'est forme prescrite à peine utile. Les formalités substantielles, là, elles ne sont pas définies. Leur définition est œuvre jurisprudentielle. Et on a deux catégories, vous le savez. Premièrement, les formalités tellement importantes que leur méconnaissance altère la substance de l'acte. Les formalités dites d'ordre public. Deuxièmement, les formalités qui sont faites dans l'intérêt des administrés et pas exclusivement dans l'intérêt de l'autorité. Le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, l'obligation de motivation. Bref, on a là des formalités dont on peut invoquer la violation à son bénéfice pour autant qu'on y ait intérêt. On va y revenir sur la question de l'intérêt. Parce que ça offre peut-être aussi une réponse à la vue des évolutions. Et puis on a les formalités secondaires, ou dites secondaires, les formalités prévues dans le seul intérêt de l'administration, qui n'intéresse pas l'ordre public. Et bon, comme Michel Leroy l'a pu l'écrire, oui, mais parfois c'est secondaire pour l'autorité, mais c'est pas du tout, pardon, pour l'individu, mais pas pour l'autorité. Par exemple, le contrôle de la Cour des comptes, hein, en termes budgétaires. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est la sanction. La sanction de ces formalités, quand elles ne sont pas respectées. Les sanctions prévues à peine d'une nullité par la loi, c'est une sanction automatique. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour le juge. On en revient à ma définition numéro 1. Rappelez-vous, ma définition numéro 1, tirée du cornu, c'est une formalité élevée à un niveau tel que exigence de forme qui subordonne la validité d'un acte à l'accomplissement de formalités déterminées requises à peine de nullité absolue. Les formalités substantielles d'ordre public, ce n'est pas facile à définir. Si elles sont d'ordre public, on peut a priori les invoquer à tout moment. Il ne faut même pas justifier d'un intérêt. On peut encore discuter de ça, j'y reviendrai. Les formalités dans l'intérêt du justiciable, celles-là, elles donnent lieu à annulation, sauf si on n'a pas d'intérêt au moyen. Et les formalités secondaires ne donnent pas lieu à annulation. Eh bien, je crois que c'est là-dessus qu'il faut intervenir, qu'on pourrait jouer sur cette tension entre formalisme et efficacité. Comment ? Ben, en regardant chaque fois quel est l'intérêt protégé par la formalité d'une part, et d'autre part, quelle est l'entrave à l'efficacité de l'action publique qui en résulte, si on devait sanctionner. Et donc, c'est un exercice au cas par cas. C'est un exercice qui, pour moi, fait que le respect de telle exigence formelle va certes retarder le processus, elle a un coût à déterminer, mais qui apporte peut-être un plus dans le cadre de l'action publique en cours. C'est une approche extrêmement pragmatique, on m'a dit utilitariste en préparant ici la question. Opérer ce compromis entre le formalisme et l'efficacité. Et ça vaut à tout niveau. Ça vaut aussi bien pour l'autorité quand elle veut préparer, insérer de nouvelles formalités, que pour un juge dans l'appréciation de leur méconnaissance. Par exemple, l'autorité a toute liberté pour déterminer les formalités à accomplir ou pour simplifier celles qui existent, par exemple, pour l'obtention d'un permis, pour déterminer celles qui ne lui apparaissent pas nécessaires, pour décider celles qui doivent être vraiment maintenues absolument, ou celles qu'on peut éliminer, pour autant qu'on ne régresse pas dans les droits procéduraux. Hein? Donc, il y a là une liberté d'autorité qui doit faire cette balance. De même, l'autorité peut organiser des contrôles qu'elle estime adéquats pour assurer le respect des formalités essentielles. Et je trouve un très bel exemple dans l'harmonie qui est faite à propos du standstill en matière de marché public. En matière de marché public, quand une décision d'attribution est prise, il y a un délai de standstill de 15 jours avant de pouvoir signer le contrat. Si on saisit le juge, ce standstill se prononce. Le juge se prononce rapidement, l'extrême urgence est présumée. Eh bien, le juge va faire une purge rapide des formalités, des vices les plus essentiels. Et on a mis en place un mécanisme qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout, de faire un contrôle approfondi, comme dans le recours ordinaire, mais on va faire quelque chose qui est un compromis raisonnable entre l'absence de tout formalisme, et on conclut le contrat sans permettre à un évincé de faire valoir ses droits, et plutôt une efficacité que l'on trouve suffisante, un contrôle de l'essentiel, il faut des avocats perspicaces qui le soumettent au juge, et les juges statueront rapidement. Et on aura purgé la situation. Voilà une bonne manière d'assurer formalisme et efficacité. Et puis, troisième lieu d'intervention, après le législateur, après l'organisation des procédures et même les contrôles juridictionnels, pour la théorie des formes. La théorie des formes, donc, c'est d'inviter le juge à sanctionner les vices de forme au besoin, mais de le faire aussi avec la nouveauté de 2014, l'article 14, premier alinéa 2. Je le lis pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Les irrégularités du paragraphe premier ne donnent lieu à annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise, si elles ont privé les intéressés d'une garantie, ou si, troisièmement, elles ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. En 2014, le législateur est intervenu pour limiter l'idée en partie erronée que le Conseil d'État annule pour n'importe quel vice de forme. C'est en partie erroné, mais ce n'était pas complètement faux non plus. Il décide de mettre en place une idée d'intérêt au moyen. Et pourquoi ? Ratio légiste qu'on trouve dans les travaux parlementaires, il faut inviter le Conseil d'État à se concentrer sur les moyens de fond plutôt que sur des irrégularités inutilement formalistes. Mais nous voilà dans la définition numéro 3 que je vous ai donnée. L'attachement excessif aux formes, la tendance à privilégier la forme et les qualités formelles au détriment du contenu et de la réalité. Exactement ça. Le législateur fait cela. Et donc, comme le disent Michel Kaiser et Emmanuel Gourdin, seule la juste illégalité mérite encore annulation et non pas toute illégalité. Seules les illégalités qui en valent la peine méritent d'être sanctionnées. Elles en valent la peine parce qu'on touche atteinte à une valeur essentielle. La valeur protégée par la forme, l'égalité des soumissionnaires, je vous ai lu, la participation du public, etc., etc. Bon. Obtenir le diplôme de Madame Tassin ne protège aucune valeur. On a son diplôme. Faire traduire autant de pages ne protège pour moi peut-être pas de valeur, mais je vais y revenir. Et cette situation belge, vous le savez tous aussi, elle est inspirée de la France et le fameux arrêt d'Anthony du 23 décembre 2011, où le Conseil d'État a rappelé qu'il y avait une sorte de principe général qui valait que les illégalités ne pouvaient être retenues que si un système semblable à la Belge, cela a une influence sur le sens de la décision prise, ça a privé des intérêts d'une garantie ou ça a touché à la compétence de l'auteur de l'acte. Et Paul Le Wall, dans l'administration publique, fait l'éloge de cette évolution, et je le partage entièrement son avis en citant la doctrine française, qui dit « L'arrêt d'Anthony marque une étape importante dans la transformation de l'office du juge de l'excès de pouvoir, dans la modernisation des standards jurisprudentiels relatifs aux effets d'une irrégularité externe. Il substitue au clivage entre formalité obligatoire et facultative, c'est notre régime, entre formalité substantielle et non substantielle, admise jusque-là en jurisprudence, une distinction fondée sur l'irrégularité procédurale. Celle-ci a-t-elle pu influencer le sens de la décision ? A-t-elle pu priver les intéressés d'une garantie ? Je cite, « Le nouveau système repose sur un changement de paradigme de base. » Rien de moins. Et note de bas de page, « Ce changement de paradigme tend à rapprocher le droit administratif français des solutions admises par ses principaux voisins, ouvrez des guillemets, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, la Belgique n'est pas citée, mais ce n'était pas encore à l'époque, en ce qui concerne les vices de procédure sur les actes administratifs. » Nous y sommes. Et Paul Le Wall fait alors une chronique de jurisprudence ou reprenant ce qui s'est fait en France depuis d'Anthony. Comment est-ce que les Français appliquent cela ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça change le raisonnement ? Et la réponse est oui. La réponse est oui en disant, eh bien aujourd'hui, on a inversé l'ordre des questions que le juge doit se poser pour déterminer le sort à réserver aux vices de procédure. Il recommande de commencer par rechercher si la procédure préalable est constitutive d'une garantie. Est-ce qu'il y a une valeur là-dedans ? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit défendre qui est supérieur ? Et si oui, d'examiner si les personnes au bénéfice desquelles cette garantie a été instituée en ont été privées en raison du vice constaté. En cas de réponse négative à l'une ou l'autre de ces questions, et seulement alors, il faut voir si le vice a été de nature à influencer le sens de la décision prise. Bon. Et donc, on raisonne autrement. Et Jean-Bernard Aubi, qui était invité ici, je crois, je ne sais pas s'il a pu venir, mais donc dit ceci, « Le chemin sur lequel notre jurisprudence s'engage n'est pas nécessairement facile, mais les principes qui l'ont conduite à s'y engager, l'arrêt d'Anthony, relèvent d'une sorte de sens commun. Donc je l'ai fait qu'en français des portes ouvertes. Relèvent d'une sorte de sens commun dont on s'est écarté. Bon. Le législateur a non seulement souhaité, en termes d'efficacité, que l'on se limite, qu'on aille au fond des choses, qu'on ne s'intéresse pas à toute violation de forme pour la forme, mais il a aussi admis un principe de boucle administrative. En bref, pour ceux qui ne savent pas, la boucle administrative, c'était la possibilité donnée par le juge du Conseil d'État à l'administration de refaire son acte vicié, de corriger, de réformer, moyennant certaines conditions, dans un certain délai, etc. On sait que cette boucle administrative s'est fracassée, telle qu'elle avait été conçue, sur des exigences de constitutionnalité et que la Cour constitutionnelle l'a annulée. On sait qu'il y avait aussi une annulation d'une boucle flamande qui avait été mise en ordre, en place tout d'abord. Et que cette boucle flamande, elle a été annulée une première fois, elle a été annulée une seconde fois, et mieux même, le législateur flamand, je ne retrouve pas mon texte, mais ce n'est pas grave, le législateur flamand, malgré cette double annulation, a persisté par un décret de juillet 2015 à réadopter la boucle administrative. En tenant compte de l'enseignement ou des enseignements de la Cour constitutionnelle, en modalisant les choses autrement. Et la section de législation du Conseil d'État, chambre néerlandophone, mais tout de même a dit, il n'y a pas de problème, cette fois-ci, c'est conforme. Il y a un nouveau recours à la Cour constitutionnelle sur cette nouvelle boucle version 2.0. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir lu les travaux préparatoires du législateur flamand. Pourquoi est-ce que le législateur a persisté alors qu'il s'est fait taper deux fois sur les doigts et qu'il risque peut-être une troisième fois? Et certes, en remodelant son outil, je vous dis, car cela correspond à une nécessité de plus grande efficacité, estiment les commentateurs et le législateur flamand, qui dit, eh bien, on met en place pour les juridictions administratives flamandes en matière d'urbanisme et d'environnement la possibilité, moyennant des conditions, le respect des droits des tiers, etc., et des possibilités de recours, de refaire l'acte qui aurait été mal fait, procéduralement parlant, qui aurait atteint d'un vice de forme. Donc, voilà encore une nouvelle évolution dans le sens de ce que je veux dire. Moins de facilité pour faire annuler un acte sur un base purement formel, possibilité de réformation que l'on admet, et que d'ailleurs Sir Cambier évoquait également, déjà en 1953. Troisième élément, on admet même aussi que nonobstant l'annulation, à vertu de l'article 14 ter des lois coordonnées, on puisse maintenir les effets d'un acte. Alors évidemment, on le fait pour des considérations de sécurité juridique, bien entendu. Mais la sécurité juridique comprend l'efficacité de l'action administrative. Si on veut sécuriser le passé, c'est pour éviter de devoir tout refaire, ou une impossibilité de le refaire, ou de trop grands efforts qui vont rendre les choses l'arrêt inutile, inefficace. Et donc là aussi, on a cette logique, me semble-t-il. Alors, tout ceci, en fait, ces évolutions, pour moi, ne montrent rien de neuf. Rien de neuf, parce qu'en réalité, en 1950, dans un arrêt Foulon, le Conseil d'État a déjà statué en ce sens. Et l'arrêt Foulon a été annoté par Félix Rémion. Hein, ceux qui ont connu M. le Premier Président Rémion sauront bien de qui on parle. Il était à l'époque substitut au Conseil d'État, on a ce titre-là. Et le Conseil d'État avait admis que, je cite, un vice de forme ne peut entraîner l'annulation de la décision que s'il entache, que s'il a une influence déterminante sur le contenu de celle-ci. Tout était dit. C'était la théorie du Conseil d'État à l'époque, mais qui a été abandonnée. Quand on lit le Salmon, et j'ai pris une vieille édition de Salmon, Salmon dit, heureusement qu'on a abandonné cette théorie. Cette théorie était absolument non maîtrisable, parce qu'une même formalité pouvait donc, selon les cas, être considérée comme substantielle dans un cas, alors que dans des circonstances différentes, de fait, elle revêtrait un caractère accessoire et non substantiel. Et donc, je cite, le Conseil d'État est rapidement venu à considérer qu'une formalité est en soi, par nature, substantielle ou non. Et c'est exactement ça qui, pour moi, est aujourd'hui remis en cause. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Le Félix Rémion disait, cette façon de comprendre le moyen dans l'arrêt Foulon est certainement celle qui tient le mieux compte de l'intérêt réel des administrés, mais également de celui de l'administration. Une logique beaucoup moins rigide, une logique qui tient compte des valeurs qui sont en jeu, et Sircambier disait, la nullité n'est pas la sanction fatale ou irrémédiable de la violation d'une forme substantielle. Il admettait déjà la possibilité d'un accomplissement a posteriori de la formalité, et il reconnaissait que la régularisation d'un acte n'était pas exclue, déjà, et pourtant ça paraît révolutionnaire en 2014, mais moyennant, bien évidemment, certaines conditions. Alors je termine. Tentons d'appliquer ce que j'ai, quelques idées qui sont là, qui ne sont pas vraiment nouvelles, à mes deux petits exemples. L'emploi des langues. Je commence par Bull. Et au risque d'être un peu hérétique. Le cahier des charges est en anglais. Tout le monde le comprend. Tous les ingénieurs qui travaillent dessus l'appliquent. Mais la législation est d'ordre public. Et je lis encore dans le Gosselin, le caractère d'ordre public de la loi sur l'emploi des langues, il cite, ne fait aucun doute, fin de la citation. Mais quand je lis ne fait aucun doute, c'est justement ce qui m'intéresse. C'est ça que je veux remettre en cause. Hein? Challenge the obvious. Est-ce que c'est si évident que ça ne fait aucun doute? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de se dire, mais à quoi sert cet emploi des langues? Quel intérêt protège-t-il ici? Y a-t-il un intérêt qui est protégé en exigeant ou en sanctionnant le fait qu'on n'ait pas traduit dans l'affaire Bull le cahier des charges en néerlandais ou en anglais pour une société qui n'a aucun grief par rapport à ça? Dont les ingénieurs travaillent en anglais, dont le site est en anglais, etc. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace de raisonner autrement? Et quand le juge dit, je répète, il n'est pas raisonnablement permis de faire preuve de tolérance à l'égard du manquement dénoncé, bien c'est exactement l'inverse que je pense. Je crois qu'au contraire, la décision pouvait être tout à fait autre, en droit, tout à fait justifiée, sans remettre en cause la valeur protégée par la loi sur l'emploi des langues. Et simplement, on évite de tomber dans le dogme un peu absolu, c'est d'ordre public, donc il faut annuler. Personne n'a dit qu'il fallait faire ça. Évidemment, on ouvre une porte à beaucoup de choses sur l'emploi des langues. C'est un sujet sensible, je comprends bien. Ça peut toucher à beaucoup d'éléments, mais il faut voir au cas par cas, je reprends ce qu'on a dit, une formalité peut-être parfois substantielle, parfois pas, selon les cas. Et alors, je termine pour Madame Tassin. Madame Tassin, comment faudrait-il juger cette affaire? Est-ce que l'administration avait raison de lui dire « Ah non, votre diplôme n'était pas joint ». Ben, il n'y a pas eu d'arrêt sur la question, parce qu'en réalité, l'administration a changé, il y a eu un recours, mais il n'y a pas eu d'arrêt, et le Conseil d'État ne s'est pas prononcé. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que le législateur a changé la loi. Dans la loi Potpourri du 4 mai 2016, Potpourri 3, il a été décidé que l'article 285-87 sexiaise dit désormais que les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle ne doivent plus être réclamées aux candidats lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre du personnel de l'ordre judiciaire. Et on a appliqué là le principe, bien que d'une simplification administrative, only once, quand on a donné déjà le document, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir. Et donc, il a fallu que le législateur vienne dans l'intérêt de l'administration, et je termine, l'agence de simplification administrative qui applaudit cette modification vient dire, sur la base du nombre de candidatures reçues en 2015, cette modification législative a un potentiel de diminution de la charge administrative de 804 504 euros. La démonstration est faite. Merci. Thank you.